Michel Younès, vous êtes à Rome pour parler de l'articulation entre foi et raison dans l'islam. Pourquoi ce sujet?
Alors d'abord, quand on parle de la foi et de la raison, on a tous à l'esprit le contexte qui nous porte, puis ce qui s'est passé il y a quelques années suite au discours du pape à Ratisbonne. Donc il y a ça à l'arrière-fond. Cependant, mon approche est à la demande du PISAI, qui est l'Institut Pontifical d'Études Arabes et d'Islamologie, c'est d'éclairer une articulation entre foi et raison à l'islam par le biais de l'islam, c'est-à-dire par la tradition musulmane, notamment en faisant appel aux écoles du kalam. Les écoles du kalam, ce sont l'équivalent, plus ou moins, des écoles de théologie pour l'islam.
Des écoles actuelles.
Pas tout à fait. Les écoles du kalam ont émergé grosso modo entre le 8e et le 9e siècle et on a perdu leurs traces comme école, c'est-à-dire comme institution qui transmettent une pensée autour de 10e, 11e siècle. Donc c'est lié à des phénomènes internes à l'islam et à la région, notamment du Moyen-Orient. Mais en tout cas, ces écoles ont existé pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles, et elles ont approché autrement ce rapport entre foi et raison. On a trouvé intéressant d'entendre ce que ces écoles musulmanes ont dit d'elles-mêmes et comment elles nous aident à comprendre l'islam d'aujourd'hui.
Alors Michel Younès, pourquoi vous intéressez-vous à ce sujet?
Au sujet de l'islam ou l'articulation foi et raison?
Les deux.
Alors, le sujet de l'islam, ça vient bien sûr de mes origines. Je suis libanais. Actuellement, j'enseigne à l'Université catholique de Lyon, mais j'ai fait aussi une thèse en philosophie et en théologie sur ces questions-là. Il y a à la fois une motivation, si l'on peut dire, existentielle qui vient de mes origines, d'autant plus que j'ai vécu la guerre et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné de l'histoire d'une religion, l'a conduit au nom de son Dieu à faire la guerre. Il y a ça à l'arrière-fond.
C'est-à-dire que vous avez toujours habité dans un pays en guerre?
La guerre a commencé quelques années plus tard. Et j'ai quitté le Liban après la fin de la guerre. Donc, je n'ai pas comme souvenir de Liban un État en guerre uniquement, mais aussi un État en reconstruction. Donc, la thèse s'inscrit dans cette logique-là. C'est une volonté à la fois de comprendre les racines de la guerre, mais aussi les motivations d'une reconstruction, d'un dialogue, parce qu'il y a eu, et il y en a encore toujours, beaucoup d'initiatives de dialogue, de rapprochement, de rencontre, de compréhension mutuelle. Donc la thèse s'inscrit dans l'effort de cette compréhension mutuelle en vue d'ouvrir un horizon nouveau de dialogue, de rencontre, mais aussi d'interpellation réciproque. C'est pas uniquement dialoguer pour faire joli dans les salons, mais dialoguer pour se comprendre soi-même, comprendre l'autre, mais aussi avoir la volonté de construire une société commune. Donc ça a une répercussion également sur la société, sur la volonté de maintenir une paix durable, la volonté d'éradiquer un extrémisme qui peut être en germe. Donc voilà, c'est lié à tout cela, la compréhension ou l'intérêt pour l'islam. Maintenant, l'intérêt pour l'articulation foi et raison.
Il s'inscrit dedans.
Alors ça s'inscrit dedans dans un premier temps. Mais aussi, ça s'inscrit dans ma trajectoire personnelle de la volonté d'approfondir, donc une intelligence de la foi qui fait appel à la raison. Donc c'est déjà dans ma propre tradition chrétienne que ça a émergé, est également élargi à l'horizon de la diversité. Parce que la raison est beaucoup plus interrogée quand elle est non pas face à une foi, mais à plusieurs fois, quand il y a plusieurs raisons internes aux expressions de foi. Donc il y a dans ce contexte de diversité une motivation supplémentaire, si l'on peut dire.
Donc vous avez baigné pendant plusieurs années avec cette diversité de cultures et de religions.
D'une certaine façon, oui. Donc c'est quelque chose qui m'habite de par ma culture aussi, qui n'est pas détachée. Vous savez qu'il y a un lien à la fois complexe et simple entre culture et religion. Et de par ma culture, si on veut faire la synthèse libanaise, qui est habitée par une dimension arabe, mais pas que arabe, qui est habitée par la religion chrétienne, mais selon une expression bien particulière, qui est l'expression orientale. Donc tout cela fait que, au fond, le dialogue s'instaure d'abord à l'intérieur de soi, avant que ce soit entre deux entités qui s'excluent mutuellement. Bien sûr, cette base, cette assise culturelle m'a conduit à approfondir le dialogue entre expression religieuse, qui est une complexité, parce que là, on entre dans des expressions diverses, mais aussi dans des croyances, quelque chose qui touche au privé, mais au public, à une imprégnation de la société, mais également une recherche, une quête personnelle. Donc ça touche à des phénomènes un peu plus complexes. Et pour comprendre la complexité, rien ne vaut que d'écouter les traditions elles-mêmes. Ce que j'ai fait dans mon travail de thèse, c'est à la fois une immersion dans la tradition chrétienne, pour la comprendre tout en vivant de l'intérieur, tout en se nourrissant d'elle, mais aussi une immersion dans la tradition musulmane, pour la comprendre de l'intérieur. Donc le travail de thèse, c'est ce dialogue qui s'est établi et qui est en résonance avec le dialogue à l'intérieur de moi-même. Donc il y a un dialogue à l'intérieur de soi, un dialogue à l'intérieur d'une culture et puis une recherche de dialogue à l'intérieur d'une société marquée par la diversité.
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans ce travail d'immersion ?
Cette immersion, elle s'est produite par une distanciation. L'immersion intellectuelle a pris forme avec une distanciation géographique en se déplaçant jusqu'à Lyon, pour mieux penser la réalité libanaise, la diversité culturelle, la diversité de foi. Cette distanciation a permis un premier moment de dépassionner un débat passionnant. La première difficulté, me semble-t-il, consiste en ça, c'est d'entrer en dépassionnant quelque chose de passionnant, en évitant les préjugés, et pourtant il y en a, surtout suite à une guerre. Donc il y a beaucoup de préjugés. La première des difficultés, c'est de se mettre à distance de soi-même, même parfois de ce qui m'a touché dans ma propre chair, suite à un décès lié à la guerre, suite aussi à des éloignements entre les quartiers, des quartiers musulmans, des quartiers chrétiens. Donc c'est cette volonté d'accepter.
Et accepter aussi des déchirures, j'imagine, des ruptures, des traumatismes de relations.
Il y a cette acceptation de la déchirure. Ce qui aide beaucoup, c'est cette prise de hauteur. C'est vouloir comprendre tout en étant lié. Ce n'est pas se séparer, ce n'est pas nier, ce n'est pas nier les blessures, ce n'est pas nier la diversité, mais c'est de prendre du recul pour comprendre et puis pour mettre des mots.
Vous avez dit pour comprendre ce qui est lié.
Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, avec l'épaisseur de l'histoire, on voit que rien n'est jamais cloisonné. Et en travaillant sur la science du kalam, les courants internes à l'islam, j'ai découvert que l'émergence de cette science à l'intérieur de l'islam, sous une forme institutionnalisée, a pris racine dans un débat entre christianisme et islam, notamment dans les premières rencontres entre chrétiens et musulmans. Donc la théologie musulmane est née en quelque sorte d'un débat, d'un dialogue, parfois sous forme de tension, mais aussi sous forme de prise en compte de ce qui différencie. Donc le débat permet à la fois de lier, mais permet à la fois de prendre conscience de l'originalité, de ce qui permet de différencier. Et le débat qui s'est instauré, par exemple, pour ne citer qu'un nom, Jean Damascène du 8e siècle, ce grand père de l'Église, notamment qui a synthétisé la pensée grecque orientale, il a lui aussi vécu cette expérience de dialogue, d'interrogation. Et on trouve les mêmes problématiques, les mêmes questions. Ce qui a motivé les musulmans dans leur quête de l'intelligence de la foi est inhérent au débat entre chrétiens et musulmans à cette époque-là. Et quelque part, je m'inscris dans cette lignée. Je trouve que comprendre l'autre, c'est aussi l'interroger. C'est aussi s'interroger soi-même. C'est aussi voir qu'est-ce qui chez l'autre me dérange, mais aussi qu'est-ce qui le dérange chez moi, sans nier la différence, mais se faire entendre par l'autre. Ce qui me motive le plus, c'est de chercher à voir comment, en parlant de sa propre foi, de ce qui me fait être comme chrétien, peut être audible par l'autre. parce que ça sert à rien de raconter sa foi d'une façon complètement inaudible par l'autre. À qui l'on parle? Si on parle aux musulmans de la même façon qu'on parle à n'importe qui dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas dans ce dialogue. Il n'y a pas véritablement dialogue.
Vous vous situez dans un apprentissage du dialogue?
D'abord en apprenant à le faire moi-même, mais aussi en se mettant à l'école de ceux qui m'ont précédé. Moi, je ne prétends pas inventer une règle de dialogue, mais je me suis mis à l'écoute, si vous voulez, d'abord de ces grands pères de l'Église, mais aussi des théologiens qui ont travaillé dans ce domaine-là.